Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Rentrée des classes particulières aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine, dans ce pays divisé en deux entités et où cohabitent Serbes, Bosniaques et Croates. La guerre a laissé des traces. Plus de 20 ans après les accords de paix de Dayton, le système scolaire veut maintenir la séparation entre les différentes ethnies. Les élèves croates et bosniaques ne suivent donc pas le même programme, selon la formule « deux écoles sous un même toit » imaginée dans la Fédération bosno-croate. Mais dans la petite ville de Jajce, les lycéens ont tout fait pour ne pas être séparés et étudier ensemble, et ils ont réussi. Reportage à Jajce signé Mercia Nezic.
Nicolas Rimac attend des copains dans un café au pied des montagnes. Cette bande de lycéens de Jajce profite encore des vacances d'été avant de reprendre le chemin du lycée. Mais pour eux, cette rentrée sera vraiment particulière. Et pour cause, toute l'année passée, Nicolas et ses camarades se sont mobilisés pour empêcher les autorités de séparer les élèves croates des bosniaques dans un nouvel établissement. Ils ont remporté une victoire inespérée dans un pays où les divisions ethniques sont une règle depuis la fin de la guerre en Bosnie, il y a plus de 20 ans.
Le lycée a toujours été un foyer pour moi et pour tous ceux que j'y côtoie. Nous sommes comme une famille, nous avons éprouvé un choc en apprenant l'année dernière qu'on voulait nous séparer. Nous, on voulait d'abord montrer que nous tenions vraiment à notre lycée. Pour notre première mobilisation, nous avons traversé la ville avec les drapeaux de pays balkaniques, ceux de la Bosnie, de la Croatie et de la Serbie, pour montrer que nous sommes tous liés. Tout le monde n'a pas compris. Ensuite, nous avons manifesté devant notre école, tout le lycée, élèves, profs, administration. Nous avons boycotté une heure de cours. C'était vraiment beau à voir.
Grâce à cette mobilisation, les deux lycées de Jajce continuent donc d'échapper en divisions ethniques. Ce n'est pas le cas des autres établissements de la ville. Les écoles élémentaires et les collèges fonctionnent selon le principe « deux écoles sous le même toit ». Les élèves partagent simplement le même bâtiment sans suivre le même programme scolaire ni se fréquenter. Christina, une camarade bosno-croate de Nicolas, était scolarisée dans un collège, deux écoles sous le même toit, dans la banlieue de la ville. Elle se souvient d'une vraie politique de ségrégation au quotidien.
On utilisait les mêmes toilettes, mais on nous laissait partir 5 minutes avant ou après la fin de la récré pour éviter de croiser les Bosniaques, dans le couloir ou dans les WC. On était séparés tout le temps. Et en arrivant au lycée, je me suis retrouvée dans la même classe que tous ces gens qu'on m'empêchait de rencontrer au collège. Le plus drôle, c'est qu'on s'entend tous très bien. On passe du temps ensemble, on dort les uns chez les autres, on mange ensemble. Le fait que des gens ne mangent pas de porc, moi, ça ne me fait rien. Ce n'est pas un problème pour moi d'avoir des amis d'une autre religion que la mienne. J'en ai beaucoup.
Christina Šivonić a 17 ans. Sous ses airs détendus, elle cache une vraie détermination. Il y a quelques mois, elle a adressé une lettre ouverte à la génération de ses parents. Elle a été publiée sur un site d'info local. Elle y écrivait « Allez-vous nous donner des couteaux et des fusils pour qu'on s'entretue comme vous il y a 20 ans ?» Depuis, elle a reçu des menaces. Nicolas aussi a subi des pressions.
Je ne veux pas me laisser intimider. Moi, j'y crois à la diversité. Je suis habitué à fréquenter des gens différents. Cela me donne la force de gérer les pressions.
Moi, j'ai même subi des pressions de la part de ma famille et de mon père. Ils me disaient « De quoi tu te mêles? Laisse-les se débrouiller. C'est un nationaliste, je te le dis. » Il travaille à Split, en Croatie, sur des bateaux. Moi, je lui répondais, occupe-toi de ta Croatie, tu ne peux pas arriver ici et nous dire ce qu'on doit faire.
La génération des parents, celle qui a connu la guerre, n'aime pas trop aborder de front les sujets qui fâchent. C'est ce qu'a compris Janita Krahic, une lycéenne bosniaque.
Les gens ici sont souvent des artisans ou des commerçants. Si par exemple un parent dit publiquement qu'il est contre toute cette politique de division et que son enfant va boycotter le lycée si les élèves sont séparés, il est quasiment sûr de ce qui va lui arriver. Il va fermer boutique ou être licencié. Les parents ont peur de dire ce qu'ils pensent vraiment aussi.
Marco Lubez lui dit ce qu'il pense vraiment. Ce bosno-croate enseigne l'histoire au lycée de Jajce. Il estime que la lutte de ces lycéens dépasse le cadre local.
C'est un combat contre la Constitution, celle qui nous a été imposée par les accords de paix de Dayton. Ce sont des gosses normaux qui posent un regard normal sur la vie, qui sont entrés en lutte contre un ordre constitutionnel absurde. En Bosnie-Herzégovine, les gens n'ont aucun droit, ils n'existent pas. Il n'y a pas de citoyens, mais seulement des groupes ethniques qui existent. Comment ont-ils pu nous concocter ça? Plus de 20 ans après, je ne comprends toujours pas.
En tout cas, la communauté internationale a bien aidé les lycéens de Jajce. 18 ambassadeurs occidentaux leur ont attribué récemment le prix Un pont pour l'avenir. Il vise à récompenser ceux qui font avancer la cause de la réconciliation en Bosnie. Ce soutien explique le rétropédalage des autorités locales. Elles ont renoncé en juin dernier à la construction du nouvel établissement plus de 20 ans après la fin de la guerre. La Bosnie reste sous protectorat international.
Et si pour discipliner les élèves, on commençait par discipliner les parents? Au Royaume-Uni, de plus en plus d'écoles estiment désormais que les retards et les absences non justifiées sont une affaire de famille. Et pour appuyer le propos, on touche au portefeuille, on sanctionne les contrevenants par des amendes. Inutile de dire que la mesure n'est pas très populaire. À Londres, Marie Billon.
L'État retire leurs droits aux parents. C'est ce qu'a récemment estimé John Platt, ce père de famille qui, en 2015, a décidé d'emmener sa fille, alors en primaire, à Disney World en Floride pendant la période scolaire. Les autorités locales lui ont d'abord infligé une amende standard de 60 livres sterling qui a doublé quand il a refusé de payer. Sa fille avait un taux de présence de 92% tout au long de l'année. Elle assurait donc une présence régulière en classe, comme le demande la loi. Mais la Cour suprême a finalement décidé que ce n'était pas aux familles, mais à chaque établissement, de définir la notion de présence régulière. John Platt a donc perdu son combat judiciaire ultra médiatisé, car il n'est pas le seul à vouloir profiter des prix des voyages, parfois à moitié moins chers, hors des vacances scolaires. En 2015, plus de 19 000 parents ont été poursuivis, 77% ont dû payer une amende, 553 ont dû faire des travaux d'intérêt général et 8 ont même été condamnés à de la prison, 3 mois maximum selon la loi. Et ce système fonctionne si bien que les familles doivent aussi sortir le portefeuille si leur enfant arrive trop souvent en retard. 60 livres sterling, là aussi, avec les mêmes menaces judiciaires. Là encore, c'est à l'école de définir ce que signifie en retard. Le gouvernement soutient ces initiatives, mais beaucoup de parents sont choqués. Si leur enfant n'arrive pas à l'heure, c'est souvent qu'ils n'ont pas eu de place dans l'établissement le plus proche, ou que le grand frère, par exemple, n'a pas été accepté dans la même école. Il faut donc courir à droite et à gauche, sans parler des embouteillages. Et certaines familles risquent désormais une autre amende, jusqu'à 80 livres sterling selon les endroits, si le conducteur laisse le moteur tourner en déposant ou en attendant l'enfant devant l'école. Pollution inutile.
On fait à nouveau du vin sur les rives du Danube, une longue tradition renaît à la faveur de viticulteurs et vignerons français ou italiens qui viennent s'installer en Serbie ou en Roumanie. Reportage à Rogljevo, à l'est de la Serbie, signé Laurent Gélin.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Rogljevo comptait 600 habitants, ils sont à peine 70 aujourd'hui. Pourtant, la région était prospère, raconte Ljubavka Jovanović, qui cultive toujours quelques vignes.
Tout le village s'est construit grâce au vin. C'est une très bonne terre. Les gens ne vendaient pas leurs raisins, ils faisaient eux-mêmes leur vin. Ils en exportaient en Slovénie et même jusqu'en France pendant l'épidémie de phylloxéra. Toutes les maisons ont été bâties avec l'argent du vin. Au moment des vendanges, les producteurs employaient 20 ou 30 journaliers. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout cela.
Les caves de Rogliévo auraient pu s'effondrer les unes après les autres si un couple de Français originaires de Bourgogne n'avait eu l'idée folle de s'installer dans le village. Depuis 2008, Estelle et Cyril Bongiro exploitent en biodynamie de vieux vignobles qui s'épanouissent sur les terres calcaires de la région. Les travaux se font à la main sur de petites parcelles chauffées par le puissant soleil des Balkans. Cyril Bongiro.
Les gens du village avaient oublié la façon de faire le vin, puisque à l'époque, pendant toute la période communiste, les raisins étaient vendus à des grandes coopératives. Mais par contre, ils n'avaient pas oublié la façon de produire du raisin, de s'occuper de leurs vignes.
Les méthodes traditionnelles utilisées par les vignerons français ont parfois surpris les habitants de Rogliévo, habitués pendant un demi-siècle de Yougoslavie socialiste à utiliser des pesticides et des engrais. Mais pour Cyril Bongiro, respecter le terroir permet de produire un vin original qui surprend et séduit.
C'est pas facile d'exporter du vin de Serbie parce que la Serbie a une image un peu dégradée suite à toutes les guerres balkaniques et aux images très négatives que les médias en général ont données de la Serbie. Mais à partir du moment où le vin est qualitatif, où le vin a ses propres dimensions, son propre caractère, ils ne souffrent pas de concurrence, donc c'est ça notre idée, c'est de faire des vins qui ont vraiment le caractère de leur terroir.
Une façon de travailler qui est aussi celle de Roberto Pieroni, un viticulteur italien qui s'est installé depuis 2009 à l'entrée du delta du Danube en Roumanie, à proximité du port fluvial de Tulcea. Plutôt que d'utiliser machines et pesticides, Roberto préfère travailler à l'ancienne.
Les avantages du cheval, c'est d'abord moins de pollution. Et ensuite, le fait de pouvoir labourer près de la vigne. Nous finissons le désherbage à la main, avec la houe. Et on gagne du temps si les femmes qui font ce travail n'ont plus qu'à nettoyer 10 ou 15 cm autour du pied.
Mais comme en Serbie, les campagnes roumaines se vident depuis la révolution de 1989. Les jeunes préfèrent tenter leur chance dans les grandes agglomérations et à l'étranger plutôt que de se casser le dos dans les vignes. Difficile donc pour Roberto de trouver de la main-d'œuvre.
Les anciens sont de plus en plus âgés et les jeunes partent. Nous n'arrivons pas à comprendre ce phénomène. Nous leur offrons de bons salaires pour les conditions locales. Tout est déclaré, tout est en règle. Pas plus de 8 heures par jour. Ici, nous manquons d'ouvriers. Il y a tant de gens qui sont partis. Tant de gens.
Ressusciter la tradition des vins du Danube serait pourtant une façon de faire revivre ces zones rurales abandonnées. Le village de Rogliévo va renaître encore une fois à la fin de l'été et au début de l'automne, à la saison des vendanges. Puis il retombera dans sa longue léthargie durant l'hiver. Avant, qui sait, de voir un jour revenir ses enfants replanter les coteaux qui disparaissent aujourd'hui sous les broussailles.
C'était la foire aux chevaux hier à Dublin. Smithfield, pour les habitués, a lieu depuis le Moyen-Âge dans le même quartier populaire de la capitale. Mais Dublin sans bourgeoise et les habitants ne sont plus aussi friands de ce genre d'événement. La foire de Smithfield n'est donc plus organisée que deux fois par an et risque de disparaître à Dublin. Julien Lagache.
La foire aux chevaux de Smithfield apparaît de plus en plus comme un vestige du temps où les éleveurs venaient vendre ou troquer leurs bêtes contre une charrue, côtoyant les maraîchers et autres paysans sur la grande place au pavé gris clair dans le centre de la ville. Un centre aujourd'hui traversé par le tram, bordé d'appartements neufs et désormais plus connu pour son cinéma, le Lighthouse par exemple, que pour son rendez-vous avec les équidés. Fini l'époque encore récente où la place était noire de monde tous les mois pour venir admirer voire acheter les Connemara ou les Cobb irlandais. L'espace s'est vidé et les policiers sont à présent aussi nombreux que la poignée d'éleveurs venus avec leurs chevaux. Car la sécurité laisse à désirer sur la place. La foire a longtemps été prétexte à des bagarres entre exposants, badauds ou personnes un peu éméchées, jusqu'à cette fusillade survenue en 2011 après une altercation entre deux familles de gens du voyage venus vendre des chevaux. Bilan, 3 blessés, mais la flaque de sang issue de cet épisode a marqué les esprits et convaincu beaucoup de gens que la foire avait fait son temps. D'autant que le nouveau voisinage, souvent peu sensible à la tradition, se plaint régulièrement de l'odeur et du tapage liés à la manifestation. Depuis 2013, elle n'a donc plus lieu que deux fois par an, en mars et en septembre, et sous bonne garde de policiers qui ont surtout l'impression de servir de chaperon aux quelques exposants restants. La mairie de Dublin, elle, a déjà tenté en vain de supprimer définitivement la foire, mais la loi ne lui permet pas en l'état, et les partisans de l'événement dénoncent une volonté d'aseptiser le quartier de Smithfield en tuant une tradition.
Astana, capitale du Kazakhstan, accueille jusqu'au 10 septembre l'exposition internationale 2017. Mais que connaît-on juste de cet immense pays, encadré par la mer Caspienne, la Russie et la Chine? Premiers éléments de réponse avec Lise Barcellini. Elle est interviewée par Assel Kipchakova et elle signe aux ateliers Henri Dougier, Kazakhstan, une jeune nation entre Chine, Russie et Europe.
Il faut prendre le titre comme un titre descriptif. Pour tous les francophones qui ne savent pas vraiment où se situe le Kazakhstan, c'est le pays qui a la plus longue frontière terrestre avec la Russie, presque 7000 kilomètres. Donc on voit déjà, on imagine les enjeux que ça représente. Et le Kazakhstan qui est un immense État qui fait plus de 5 fois le territoire français, il est, on va dire, coincé entre deux très puissants et géants voisins qui sont la Chine et la Russie. Ce titre a étonné. Le peuple kazakh me disait « Nous ne sommes pas un jeune peuple. Nous sommes là depuis 550 ans. Ce qui est jeune, c'est notre État. » La photo de couverture du livre, on y voit l'un des emblèmes de la capitale, qui est Bayterek, qui est l'équivalent de notre tour Eiffel. C'est la première fois qu'une exposition internationale est organisée d'un pays d'ex-URSS. Donc pour le Kazakhstan, c'est une reconnaissance.
De ce vaste pays, on connaît surtout les clichés que l'auteur a pris un grand plaisir à démonter.
La yourte, la steppe, les chevaux et Borat. Alors, la yourte, non, je rassure les auditeurs, tout le monde ne vit pas dans une yourte au Kazakhstan. Ils ont des immeubles, il y a des routes, il y a des voitures, c'est un pays extrêmement civilisé. Le deuxième cliché, c'est la steppe. C'est une immensité à perte de vue. Ça nous donne à voir tout cet imaginaire, l'histoire des chevauchés mythiques, les guerriers de Genghis Khan dans cette immensité des steppes. Alors, je disais, le troisième cliché, c'est les chevaux. J'ai vu beaucoup plus de voitures que de chevaux, mais historiquement, il faut savoir que c'est cette zone géographique où le cheval a été pour la première fois domestiqué par l'homme. Donc il y a un rapport au cheval assez intéressant. Le meilleur ami du Kazakhstanais, c'est le cheval, et en même temps, c'est aussi son plat préféré. On mange du cheval au Kazakhstan. Pour être un bon Kazakh, comme je dis dans le livre, il faut aimer la viande de cheval. On n'a pas le choix. Le quatrième cliché, ça ferait pas plaisir aux Kazakhstanais, mais c'est vrai, quand on est occidental, on a le cliché en tête de Borat. Ce film caricatural, humoristique, le tournage s'est passé en Roumanie, ça donne pas du tout la vraie image, mais finalement, cette mauvaise communication à travers le film Borat a permis une chose très importante, c'est de mettre le Kazakhstan sur la carte du monde.
Le Kazakhstan, un pays dirigé d'une main de fer par Nursultan Nazarbayev, le chef de la nation, comme il aime se faire appeler, autant dire un régime qu'il ne fait pas bon critiquer, Lise Barcellini.
J'ai choisi l'angle de mon livre de ne pas parler de politique. Évidemment, j'ai bien conscience qu'il y a des sujets tabous. En fait, le sujet tabou, c'est critiquer le président. Et il se trouve qu'en plus, quand on parle avec les habitants, il y a beaucoup d'habitants qui redoutent le moment où le président ne sera plus là. Il y a un grand fossé générationnel au Kazakhstan. Donc tous ceux qui avaient déjà 20 ans en 91, qui ont été éduqués sous l'Union soviétique, se sentent encore très soviétiques. Et puis, à toute la nouvelle génération, qui est polyglotte, les deux langues officielles, évidemment, c'est le kazakh et le russe, mais l'anglais prend une place très importante, et les étudiants, aujourd'hui, parlent anglais, sont très ouverts sur l'Occident, sur les États-Unis, ça les fait rêver. Beaucoup de la jeune génération, de l'élite, rêvent de partir faire ses études à l'étranger et revenir après pour construire le nouveau Kazakhstan.
Kazakhstan, jeune nation entre Chine, Russie et Europe, de Lise Barcellini aux ateliers Henri Dougier. À Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux. À demain.